Eh bien, bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Cinéscopie, une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Et comme nous sommes le 5 janvier 2026, c'est notre première émission de l'année, je vous souhaite, Laurent et moi, d'ailleurs nous vous souhaitons une excellente année cinéma 2026. Et ce qu'on espère, c'est qu'on aura de très bons films cette année. Comme on en a eu en 2025, et vous le savez, traditionnellement, on fait un peu le bilan des films sortis sur nos écrans l'année dernière. D'ailleurs, la plupart de vos revues de cinéma font leur top et leur flop, parfois aussi, donc les meilleurs et les moins bons films de l'année écoulée. Eh bien, regardons par exemple ce soir ce que nous propose la revue Première, qui a fait son classement des meilleurs films. Alors, en 10e position, alors évidemment, on peut ne pas être d'accord, moi je vous dirai si je suis d'accord ou pas, en 10e position, Le Brutaliste. Eh bien, moi je suis plutôt d'accord, je trouve que c'est un film peut-être un peu surestimé, et quand il est sorti, on est dit, bon, c'est le meilleur film de l'année, voilà, bon. Moi j'aime bien le film, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu surfait. Bon. L'histoire super intéressante, Adrien Brody formidable, mais ça envie ta vision, mais il y a des choses quand même, on en avait parlé, on avait mis quelques bémols. Laurent, je sais pas si...
Oui, bonsoir, oui, tout ça pour ça.
Bon.
C'est 3 heures de film quand même.
Après, il y a des choses intéressantes.
Oui,
alors,
oui.
Revenons à ce classement en première des meilleurs films de l'année, en 9e position. Alors là, par contre, Laurent, je n'ai pas vu le film, mais toi, tu l'as vu, je sais. C'est La Petite Dernière de Afsia Erzi. Est-ce que ce film méritait d'être dans un top 10 des meilleurs films de l'année?
J'irai pas jusque-là, quand même.
Voilà.
Mais elle s'en approcherait, en tout cas.
S'en approcherait. Ouais. Je dirais la même chose, par exemple, du 8e film préféré par Première, c'est Alpha, de Julia Ducournau, moi, personnellement, je n'ai pas détesté. J'ai trouvé le film assez intéressant. Mais bon, je l'aurais mis peut-être en 15e position. Enfin, voilà.
Oui, je te rejoins aussi. Un petit peu comme La Petite Dernière, d'ailleurs. C'est des films qui seraient à l'approche d'un palmarès, si on peut dire. Mais voilà, qui, somme toute, n'auraient pas la prétention, en tout cas, d'être des films marquants de l'année 2025.
C'est ça. Alors, en 7e position de ce classement de la revue Première, nous avons... Alors là, c'est une surprise. Bon, ça me réjouit d'une certaine façon, parce que le cinéma de genre a droit de citer aussi, et je sais très bien que ça se retrouve dans un top des meilleurs films. C'est 28 ans plus tard, de Danny Boyle. J'avais pas été enthousiasmé par ce film, qui reste quand même assez intéressant. Enfin, j'aurais pas mis dans un top 10, là, également. Bon, mais c'est Première, moi, qui nous le met en 7e position. Alors là, on se rapproche de l'excellence avec un film, là, par contre, que je pense certainement un des meilleurs films de l'année. Oui, c'est Un Parfait Inconnu, en 6e position pour Première, le film de James Mangold avec Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan. Là, c'est vrai que peut-être même je l'aurais mis dans mon top 5, finalement. Mais en tout cas, il est en 6e position et il mérite forcément d'être dans le top 10 de l'année. En 5e position, là aussi, un film qui échappe à toute classification. Et je l'aurais peut-être mis dans mon top 3, celui-là, mais enfin, il est dans le top 5, je ne vais pas me plaindre. C'est Life of Chuck de Mike Flanagan, un film inspiré d'une une histoire de Stephen King. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce film et je crois qu'il obtient un bon succès à la vidéo actuellement. Life of Chuck en 4e position. Là, je l'aurais mis quand même là aussi dans mon top 3, L'Agent Secret de Kleber Mendoza Filho, avec Wegner Moura dans le rôle principal, un film qui nous plonge dans le Brésil des années 70, le Brésil de la dictature, un régime corrompu, à travers l'histoire donc de cet homme qui est à la recherche de son fils. Et c'est vraiment un film assez passionnant, qui est aussi un hommage au cinéma. Et j'ai trouvé le film vraiment très bien écrit, où vraiment, chaque personnage existe dans le scénario. C'est un film qui est un petit peu long aussi, 2h40, mais on s'ennuie pas. Et franchement, L'Agent Secret est certainement peut-être un des 3 meilleurs films de l'année. Et en troisième position, alors l'attention, c'est le top 3 de première. Alors là aussi, un autre film de genre, et ça me réjouit d'autant plus que là, effectivement, c'est un excellent film. C'est Sinners de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan. Un film fleuve, là aussi, qui nous entraîne dans l'Amérique de la Dépression dans les années 30. L'histoire de deux frères jumeaux qui ouvrent une boîte de blues dans le sud, dans un état du sud, je sais plus exactement où d'ailleurs, mais enfin c'est un très très beau film qui mêle un petit peu, qui mêle les genres, le fantastique, le policier, voilà, et c'est un film assez passionnant. Le deuxième meilleur film de l'année pour première, alors là, je n'ai pas vu de film, Laurent, eh bien toi tu l'as vu, c'est Sirat d'Oliver Lache. Avec cet acteur Sergi Lopez, voilà, chercher son nom. Bon, apparemment, c'est un choc pour pas mal de gens qui l'ont vu. Est-ce que tu fais partie des admirateurs de Sirat? De là, le mettre dans le top 3.
Alors, des admirateurs, non, pas réellement, mais je rejoindrai un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Même si, par contre, pour ce film-là, on pourrait quand même... enfin, moi, je l'aurais vu, c'est vrai, dans un palmarès, dans les 10 premiers, mais en tout cas, plutôt dans... entre la 10e et 5e position, voilà, mais pas plus, pas plus. Mais bon, c'est un film un petit peu expérimental, je dirais, qui m'a beaucoup étonné, mais c'est vrai que, en tout cas, le film a été, à mon avis, un petit peu surcoté, comme certains autres, hein. Donc franchement, voilà, entre la 10e et 5e, mais pas plus.
Et alors, bien, en première position, le meilleur film de l'année, c'est Une bataille après l'autre, de Paul Anderson. Alors, avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, ouais, très chouette film d'ailleurs. Moi, j'aurais mis dans le top 5. Bon, après, j'aurais pas forcément mis en première position, mais enfin, il y a quand même dans ce palmarès de la revue première un oubli, à mon avis, un film qui est un petit peu dans le même registre d'une certaine façon qu'Une bataille après l'autre, c'est Eddington, qui est sorti pendant l'été et que je trouvais assez passionnant, avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal dans les rôles principaux, avec notamment le dernier tiers du film qui est mis en scène magnifiquement, et c'est un film un petit peu oublié de ce palmarès. Moi, je l'aurais quand même mis forcément dans ce top 10. Alors, quand je regarde, ce qui est toujours intéressant quand on regarde le top d'une rédaction, c'est de regarder les critiques individuellement, ce qu'ils ont, parce que il y a des films du coup qui n'apparaissent pas dans le top 10 mais qui apparaissent chez certains critiques de la rédaction. Alors, je vois par exemple un film qui vient de sortir, mais enfin qui date de l'an dernier, c'est Le Maître de Kabuki, qui est actuellement sur nos écrans et qui aurait pu figurer dans ce palmarès. Et puis une comédie, moi, que j'avais beaucoup aimé, mais alors qui a été un petit peu oubliée, c'est un peu dommage, c'est Avignon. Je sais pas si tu te souviens de ce film,
oui,
Laurent.
Oui,
une comédie plutôt bien écrite qui restituait bien l'atmosphère du Festival d'Avignon. Voilà, donc, alors il y a Bugonia aussi qui apparaît. Bon, moi, je l'aurais pas forcément mis dans un top 10, mais franchement, le film est quand même pas mal, à l'exception d'une fin catastrophique, il faut quand même le dire, c'est peut-être ça qui est aussi, voilà. Et puis il y a le Valeur sentimentale.
Alors là, pas du tout.
Voilà, alors bon, voilà.
Je suis un petit peu, je dirais même allergique peu à ce film.
Et puis il y a quand même un film qu'on a oublié, moi, que j'aurais peut-être mis, par exemple, tu vois, à la place de La Petite Dernière, c'est Les Aigles de la République de Tariq Salé, que je trouvais assez brillant, avec des moments de mise en scène assez forts. Et puis voilà, l'histoire aussi tout à fait formidable. Bon, voilà.
Alors, moi, j'ai deux regrets.
Ah, tes regrets, alors.
Deux regrets, enfin, en tout cas, dans le palmarès que tu as évoqué, c'est le film de Richard Linklater, Nouvelle Vague.
Ah oui, Nouvelle Vague.
Qui aurait dû être, en tout cas, dans le palmarès. Et l'autre film que j'avais trouvé assez intéressant, de Christian Petzold, c'est Miroir numéro 3, qui était aussi un bon film. Voilà.
Oui, c'est vrai.
Et qui aurait mérité, en tout cas, d'être présent au sein de ce palmarès.
tout à fait. Bon, en tout cas, si, alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez loupé certains de ces films en salle, eh bien, ce mois de janvier, il y a ce que, vous savez, le traditionnel festival de cinéma Télérama. Alors, du 21 janvier au 27 janvier, pendant une semaine au Lido, eh bien, une sélection de films, donc de Télérama, le, voilà. Une revue évidemment bien connue des cinéphiles. Voilà, tous les ans, le Télérama, eh bien, voilà, sélectionne les meilleurs films. Et donc, alors, dans le lot, donc il y a justement des films qui ne sont pas dans le palmarès première. Et je pense d'ailleurs à un film que tu as beaucoup aimé cette année. Il y a Black Dog, voilà, qui.
Oui.
Qui
sera dans, alors, il y a Black Dog et aussi un autre film dont on n'a pas parlé, qui aurait aussi mérité, je trouve, sa place. C'est L'Inconnu de l'Arche. Et l'autre film aussi, peut-être qui fait partie de la sélection de Télérama, il me semble, c'est Deux Procureurs.
Attends, je regarde sur les Deux Procureurs, je ne le vois pas dans la sélection. Par contre, il y a dans la sélection Télérama, il y a Je suis toujours là. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais c'est un film qui nous plonge aussi dans ce Brésil des années 70 sous la dictature militaire. Hein, et c'était d'ailleurs un film, je crois, de Walter Salles qui était vraiment intéressant. Voilà. Donc, ouais, il y a pas mal de films. On va retrouver Le Brutaliste, Sirat, justement, Un simple accident, Une bataille après l'autre, Valeurs sentimentales que toi tu n'apprécies pas trop, L'Inconnu de la Grande Arche, la trilogie d'Oslo, avec le film Amour. Je crois que tu avais vu.
Non, je n'ai pas eu l'occasion. Alors, je pense que dans la trilogie, tous les volets ne sont pas forcément du même niveau, oui, en termes de qualité. Mais voilà, bon, après.
Et donc, il y aura comme aussi un film d'animation, Mémoire d'un escargot.
Ah, ça, c'est excellent.
Et oui, voilà. Ouais. Et puis alors, Miroir numéro 3, puisque tu en parlais un instant. Et puis des avant-premières. Alors notamment le film À pied d'œuvre. Et puis un film dont moi j'adore le titre de ce film, Le baise en ville. Alors, ben, qu'est-ce que c'est qu'un baise en ville d'ailleurs ? Est-ce que c'est ce que c'est, Laurent, un baise en ville en fait ? Parce que ça peut prêter à confusion.
Je pense pas. Je ne pense pas.
Non, oui, non. En fait, c'est une sacoche.
Alors, en fait, c'est peut-être pour un film. Non, je ne crois pas que le Lido.
Non, pas du tout. Non. Ça aurait pu, fut un temps, ça aurait pu être intéressant. Non, mais on est sur autre chose. Non, c'est le nom qu'on donne à une sacoche où on met un peu une brosse à dents, des vêtements de rechange. Ça, c'est ce qu'on met, voilà, ça en bandoulière.
Un,
voilà,
un utilitaire, en fait.
Un utilitaire, ouais. Enfin, cela dit. Bon, alors, eh bien, après le palmarès de l'année 2025 et puis l'annonce du festival Télérama, bon, Charles-Laurent, nous allons peut-être commencer cette émission en musique. Ah, tu as une précision.
Je voudrais juste rajouter, parce qu'en fait, il s'avère qu'on parle de cinéma, de fréquentation, et c'est vrai que l'année 2025 a été quand même un petit peu en deçà de ce qu'on espérait. Et beaucoup de salles, de petites salles, peuvent en fait se retrouver en difficulté parce que il n'y a pas eu véritablement ce qu'on appelle de grosses locomotives sur cette année, et donc du coup, il y a eu, voilà, quelques petites conséquences, mais et c'est ce qu'on retrouve un petit peu à travers ce palmarès, c'est qu'en fait il y a des films qui mériteraient d'être dans le palmarès, pas forcément en tête, parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas vraiment de films qui se détachent, à part peut-être un ou deux, mais c'est quand même des films qui, en termes de fréquentation, l'ont été à discrétion. Il n'y a pas eu véritablement un déplacement massif en fait de spectateurs. Et donc, forcément, ce que les exploitants souhaitent pour 2026, c'est qu'il y ait vraiment des projets et des films qui, en fait, rassemblent. Et donc, c'est ce qu'on peut espérer. En tout cas, pour nous, on a quand même quelques films qui nous ont quand même marqués. Parce que, voilà, le cinéma, c'est cela aussi, c'est pas forcément des films qui rassemblent énormément, qui sont de qualité. Alors, c'est du cinéma populaire, on n'est pas du tout allergique au cinéma populaire, mais il y a aussi, je dirais, des films tout à fait intéressants qui méritent le détour, Et c'est l'intérêt d'avoir en fait un choix assez conséquent, en tout cas sur la région, qui permet en fait de découvrir certaines œuvres. Et le festival Télérama fait partie aussi de cette initiative, c'est-à-dire découvrir des films que vous n'avez peut-être pas pu voir lors de leur sortie en salle, et donc ça permet de les revoir. Voilà. Et je voudrais juste rajouter, mais ça vous l'avez certainement découvert dans tout ce qui est les informations sur les cinémas, je dirais, de la région, et en particulier de Limoges, c'est vraiment une montée en puissance de ce qui se faisait il y a quelques années, en tout cas, dans le cadre du cinéma RSC, et du fait que le Lido a permis a eu une deuxième jeunesse, si je puis dire, eh bien, de redévelopper les sortes de nuits de films cultes, et donc ça permet de voir des grands classiques sur grand écran. Et ça, par contre, je trouve que c'est une excellente initiative, parce que ça permet de redécouvrir certaines œuvres dans des conditions totalement différentes que par rapport à ce qu'on peut les voir chez soi. Et donc franchement, alors je crois que le prochain, c'est le 30 janvier, me semble-t-il, oui, pour Sunset du Boulevard, oui, et Cinéma Paradiso. Et donc voilà, et je crois que la programmation pour février est en cours de sélection, et donc c'est plutôt une excellente idée. Voilà.
Ah oui, puis là, redécouvrir Boulevard du Crépuscule en salle, c'est vraiment merveilleux. Et puis Cinéma Paradiso, forcément, qu'on adore. Parfait, Laurent. Eh bien, voilà, on vous souhaite encore une excellente année. Meilleurs vœux pour cette année 2026. Et puis, on va commencer l'émission en musique, comme d'habitude.
Oui, et puis on
pas des habitudes.
Voilà, on va faire un petit hommage à des grands classiques musiques de séries télévisées.
Oui.
Qui est orchestré par Eric Kunzel et son Cincinnati Pops Orchestra. On pourra découvrir Mission Impossible, Les Flics de Miami, Hawaii Police d'État, plein d'autres.
Oui.
Ça sera un petit quiz par la musique, parce que bon, c'est quand même des thèmes musicaux qui ont marqué, je dirais, des milliers de personnes et des générations entières. Et donc voilà, on va redécouvrir cela à la sauce Eric Kunzel, mais qui est relativement fiable par rapport aux œuvres originales. C'est pour ça qu'on vous le propose. Et on est parti pour 12 minutes de musique de série TV. Allez, tout de suite, Eric Kunzel. We'll be right back. Rubrique vidéo.
L'actualité du support physique, Blu-ray, DVD, Steelbook, c'est tous les lundis soirs dans Cinéscopie. Eh bien, nous allons commencer. Alors, tout à l'heure, nous vous parlions dans le palmarès des films 2025 du film de Juliette Ducournau, Alpha. Eh bien, il se trouve que Alpha sort en Blu-ray cette semaine. Donc, dans ce film, Mélissa Boros joue le rôle d'Alpha, cette jeune adolescente de 13 ans qui vit seule avec sa mère. Alors c'est Golshifteh Farahani qui joue le rôle de la mère en question, qui est vraiment magnifique. Et leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Et c'est à ce moment-là que surgit le frère, l'oncle, joué par Taha Rahim. Et voilà, donc c'est un film qui se passe dans un monde en déliquescence. Il y a une dimension science-fictionnelle ou même fantastique. Difficile d'en dire plus, mais c'est vrai que c'est un film quand même assez assez fascinant et qui doit beaucoup à ses interprètes. Alors Mélissa Boros, hein, qui joue le rôle d'Alpha, mais donc Taha Rahim, Golshifteh Farahani, Emma McKay et Finnegan Oldfield également complètent cette distribution. Le film est édité chez Diafana. C'est un film, comme souvent chez Julia Ducournau, qui ne laissera pas indifférent, hein, qui est vraiment très très particulier, assez singulier, on va dire. Et c'est un peu la marque de fabrique, c'est la singularité dans les films de Julia Ducournau. Bon, moi personnellement, je vous le conseille, même si, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'aurais pas forcément mis dans un top 10, mais voilà, mais le film est quand même intéressant. Alpha de Julia Ducournau chez Diafana. Alors, on va rester dans le domaine du cinéma de genre avec un thriller, un giallo même, un giallo, sorti chez nous sous le titre de Bloody Bird. Alors, le titre original, c'est Deliria. Et c'est un film réalisé par Michele Soavi. C'est peut-être d'ailleurs le chant du cygne du giallo. C'est peut-être un des derniers giallo, un hommage à ce genre qui a fait les beaux jours des salles de quartier dans les années 60-70. Alors, quelle est l'histoire de Bloody Bird? Eh bien, tout se passe dans un vieux théâtre. Une troupe de jeunes comédiens répète une pièce musicale tirée d'un fait divers. Une série de meurtres perpétrés par un maniaque, Irving Wallace. Mais il se trouve que, justement, eh bien, le maniaque en question s'échappe de l'hôpital. Il se rend au théâtre et tue tous les acteurs, ou presque, je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, donc on est dans une sorte de mise en abîme, un petit peu, voilà, du genre, dans ce film qui met en scène certains acteurs qu'on avait rencontrés dans certains gialli, notamment David Brandon, Barbara Cupisti, mais également Richard Barclay, Domenico Fiore, Giovanni Lombardo Radice. Voilà, un film assez violent quand même et qui était sorti, je crois, avec une interdiction au moins de 13 ans peut-être à l'époque, ou en tout cas il a interdit au moins de 16 ans, je crois, sur ce DVD. Alors, c'est un combo, c'est-à-dire que vous avez le Blu-ray du film et le DVD, et puis un livret signé par Marc Toulek, un livret de 24 pages, comme c'est le cas dans cette collection de films publiée par ESC Films. Et puis il y a quand même aussi un documentaire intitulé « Le slasher italien » avec Laurent Aknin qui fait un peu l'historique de ce genre. Et puis enfin un documentaire proprement dit sur le film intitulé « Bloodbath in Aquarius ». Un documentaire sur le film avec où l'on retrouve Michele Soavi, le réalisateur, mais aussi Luigi Montefiori et Giovanni Lombardo Radice. Voilà, donc moi je vous conseille ce Bloody Bird édité chez ESC Films. Par ailleurs, dans les nouveautés de cette semaine, eh bien, un film dont nous vous avions parlé dans Cinéscopie, A Big Bold Beautiful Journey, un film de Kogonada avec Margot Robbie et Colin Farrell dans les rôles principaux. Imaginez pouvoir ouvrir une porte et la franchir pour revivre un moment décisif de votre passé. Eh bien, c'est ce que vont vivre Sarah et David, deux inconnus célibataires qui se rencontrent lors du mariage d'un ami commun et par un incroyable coup du sort se lancent ensemble dans une aventure grandiose où ils revivent des instants marquants de leur vie respective. Ces souvenirs retracent leur parcours et pourraient peut-être bien leur offrir une chance de transformer leur avenir. Voilà, un film qui mêle la romance et le fantastique. Un film qu'on avait plutôt bien aimé, comme dans Cinéscopie, malgré un rythme peut-être un petit peu lent, c'est un petit peu inégal. Mais bon, il y a quand même une belle photo, des acteurs voilà, qui nous charment. Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Jodie Turner-Smith, entre autres, dans ce film. Voilà. Alors, maintenant, un film ou une série de films beaucoup moins romantiques, avec la sortie cette semaine d'un coffret édité toujours par ESC Films. Ils sont spécialisés un peu dans les thrillers, les films d'horreur. C'est la trilogie I Spit on Your Grave. Alors, I Spit on Your Grave, c'est d'abord un film réalisé dans les années 70, avec Camille Keaton, et en fait il y a eu donc des suites ou des remakes. Alors il y a ce coffret qui regroupe trois films, avec tout d'abord le remake réalisé en 2010. C'est la même histoire. Jennifer, jeune et jolie écrivain, s'isole dans un chalet pour y écrire son nouveau roman. Alors elle, qui s'attendait à une retraite tranquille, se retrouve bien violée et torturée par un groupe d'autochtones complètement tordus qui empestent la cruauté et la perversité. Abusée par chacun d'entre eux, laissée pour morte, elle se livrera à une vengeance sans pitié. Et oui, bah, c'est exactement la même histoire que le 1. Mais voilà, c'est Stephen Monroe qui fait le film et c'est encore plus complaisant et plus malsain que le premier, c'est tout dire. Alors il y a une suite, I Spit on Your Grave 2, réalisé celui-ci en 2013. C'est un peu la même chose. Cette fois-ci, on suit le parcours de Cathy, qui est apprentie top modèle. Elle court les castings et l'un de ces castings va tourner au cauchemar. Elle aussi sera violée, torturée, laissée pour morte, et la jeune femme entreprendra alors de se venger. Voilà. Alors, si vous n'en avez pas assez, il y a quand même donc un troisième épisode, I Spit on Your Grave 3, réalisé celui-ci en 2015. Et là, on retrouve le personnage de Jennifer, qui est évidemment toujours tourmentée par l'agression dont elle a été victime des années auparavant. Mais là, elle va décider de traquer et de faire payer les hommes qui ont agressé sa nouvelle amie. Voilà. Donc, on est ce qu'on appelle le film de vengeance. Voilà. Le Rape and Revenge Movie. Donc voilà, on a ces trois films qui sont proposés par ESC. Et évidemment, tout ça, c'est interdit aux moins de 16 ans. Bah oui, parce que c'est quand même particulièrement abominable. Et voilà, je sais pas si je peux recommander ça, parce que moi, personnellement, j'ai le premier, I Spit on Your Grave. Je l'ai vu une fois. J'ai trouvé même assez intéressant, plutôt bien réalisé, mais ce genre d'histoire que je peux pas revoir, moi, donc j'ai un peu de mal quand même. Bon, allez, je termine par un petit nanar, mais bien sympathique, parce que c'est ça, les nanars, c'est ce qu'on appelle les mauvais films sympathiques, c'est la définition qu'on donne à ces films. Alors, avec là aussi, ça va sortir dans les jours qui viennent, c'est Invasion USA, un film réalisé par Joseph Zito dans les années 80. Alors, Invasion USA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une armée de guerrieros extrémistes dirigée par Mikhail Rostov débarque en Floride afin de provoquer le chaos aux États-Unis. Et le pays est en effet bientôt secoué par une vague de terrorisme. C'est alors que Matt Hunter, ex-agent de la CIA, se voit confier la mission de localiser et d'éliminer Rostov afin de stopper ses attaques. Eh bien, Matt Hunter est ici interprété par Chuck Norris. Et oui, voilà. Et alors, Chuck Norris, c'est un de ses films fétiches de l'époque. Hein. Il avait fait tous les aussi Missing in Action à l'époque. Hein. Ça a bien marché. Et puis, il y a ce Invasion USA qui est comme sympathique. Où l'on retrouve dans le rôle du méchant un certain Richard Lynch. C'est toujours chez ESC. Et il y a un documentaire sur Chuck Norris, avec justement un des membres de l'équipe de Nanarland qui parle de ça. Voilà pour ma sélection, Laurent.
Très bien. Eh bien, on va parler De petites sorties, ça et là. Alors, je voulais juste quand même faire une petite précision, parce qu'on attendait avec impatience deux westerns italiens. Alors, à commencer par Saludos Hombre, donc un film de Sergio Solima réalisé en 1968. Le film de Franco Giraldi, Sugar Colt, film espagnol, et qui était annoncé chez l'éditeur Artus pour la fin de l'année. Et donc là, pour le coup, ces films ne sont pas sortis, tout simplement parce que ils sont repoussés d'à quelques mois, étant donné que entre-temps, l'éditeur a retrouvé des éléments inédits, entre autres pour le film de Sergio Solima, et qui vont permettre, en tout cas, augmenter le métrage en fait du film. Et donc, pour le coup, il serait annoncé au mois de mai. Et ce serait deux combos, Blu-ray 4K, et pressé chacun à 1000 exemplaires, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà. Donc,
c'est une bonne nouvelle. Hein,
voilà, c'était juste le petit détail, parce que déjà la date nous préoccupait, parce que la date de sortie était le 31 décembre, ce qui paraissait quand même assez saugrenu avec donc les fêtes de fin d'année. Et donc là, pour le coup, il faudra patienter un petit peu plus, en espérant quand même, parce qu'on croise les doigts, qu'il n'y ait pas de petits soucis, parce qu'on a connu quand même des titres qui étaient annoncés et qu'il a fallu attendre un an et demi, voire même plus.
On croise les doigts. Oui.
Voilà. Donc revenons aux sorties avec un film de Rob Reiner qui est sorti chez. Je recherche l'éditeur. chez Sony, pardon.
C'est une coïncidence assez étonnante au moment où on a parlé de la disparition de Rob Reiner.
Oui, oui. Avec ce film Spinal Tap 2. La fin continue, film donc musical hein, avec Christopher Guest, Michael McKean et aussi Rob Reiner.
Oui, qui de temps en temps faisait l'acteur. Oui.
On est bien sûr 15 ans après s'être séparés, les membres d'un groupe de rock se réunissent pour faire un tout dernier concert. Et donc, 41 ans après un premier opus aujourd'hui devenu culte, malgré un échec commercial à la sortie, sorti en direct tout VHS à l'époque, en France, il n'a débarqué dans nos salles qu'en 2000. Pour vous dire, il a fallu un certain temps avant qu'on réagisse. Et donc, Rob Reiner a convoqué la quasi même équipe et pour un nouveau documentaire, avec à l'esprit toujours le même souci du décalage, du second degré et de l'absurde. Mais malgré la présence loufoque de Paul McCartney et d'Elton John dans leur propre rôle, Spinal Tap 2, avec ses gags quelque peu forcé, manque potentiellement d'un brin de rythme, mais ça c'est souvent le cas dans des suites. Enfin, ça le mérite d'exister, et je crois qu'il y a une édition au passage métal de ce film. Donc voilà. Donc pour ceux qui voudraient se procurer, et c'est disponible en DVD, en Blu-ray et en 4K. Autre film. Alors celui-ci, par contre, n'est pas encore sorti. Je vous cache pas qu'il est très attendu.
Tu m'intrigues.
Là, c'est Sidonie qu'il propose, et ça va sortir le 16 janvier. Film de Mario Bava avec John Filippo, Marina Mel et Michel Piccoli. Musique signée Ennio Morricone pour le film. Diabolique, titre français, Danger Diabolique.
Ah oui, c'est formidable ça.
Et donc,
c'est une bonne nouvelle.
Alors là, par contre, voilà, c'est annoncé dans une édition combo, donc Blu-ray 4K, Et donc, avec des petits bonus, hein, et il y a un petit livret qui accompagne cette édition. Alors, c'est pas Mediabook, hein, je me semble pas, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une édition un petit peu enrichie. Alors, le pitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film qui date de 1968, production franco-italienne, l'histoire d'un inspecteur de police qui met tout en œuvre pour coincer un ingénieux malfaiteur assisté de sa séduisante complice. Et donc, avec cette adaptation culte d'une bande dessinée italienne, eh bien Mario Bava se réappropriait le personnage trouble du bandit diabolique pour en faire une sorte de héros négatif, anti-système, séduisant et minimaliste, dont l'histoire d'amour torride, hein, qu'il vit avec sa compagne, demeure au cœur d'un récit mélangeant léger érotisme, assez accrocheur quand même, péripéties de comics et séquences originales au gré d'une réalisation géométrique. Et donc, pour le coup, eh bien, c'est une très très belle composition, assez emblématique quand même de l'époque. Et forcément, on ne peut que se féliciter aussi de la bande-son par le sieur maestro Morricone.
Ouais. Oui. Non, bien aimé qu'il y ait le CD de la musique avec cette édition, mais enfin, c'est quand même déjà formidable d'avoir le film. Et alors, c'est vrai que c'est à l'époque, les fumetti, ces bandes dessinées italiennes populaires, hein, qu'on achetait à pas cher d'ailleurs, ben, elles ont été pas mal adaptées au cinéma. Il y a eu, je me souviens, Satanique, Criminal, Phénoménal, et ce diabolique, hein. Il y en a eu tout un paquet là.
Alors, voilà. On peut peut-être espérer que Sidonie parte en fait sur la collection, pourquoi pas.
Ah, bah pourquoi pas. Hein.
Pour l'instant, ce n'est pas annoncé, mais ça pourrait être une bonne opportunité en tout cas.
Diabolique, qui a d'ailleurs été réadapté au cinéma ces dernières années. Il y a eu deux ou trois films sortis en Italie.
Alors, autre film qu'on avait vu dans Cinéscopie, mais il y a fort longtemps, hein, c'est 1993.
Ouh là là.
Film français, film d'aventure, réalisé par, en tout cas, un producteur. Ce producteur français, qui était très très connu à l'époque.
Ah, j'ai une petite idée.
C'est Christian Fechner.
Ouais.
Et donc, dans la distribution, il y avait Pierre-Olivier Mornas, Tiki Olgado, Bernard Allaire. La musique, je me rappelle, était signée Germinal Tenace pour ce film, d'ailleurs qui était un petit peu inclassable hein, quand même, Justinien Trouvé ou Le bâtard de Dieu, qui racontait l'histoire et le destin mouvementé d'un jeune homme à la fin du XVIIe siècle. Et qui avait un visage mutilé, jadis abandonné, nourrisson, sur les marches d'un monastère. Et donc, c'est un film, je dirais que c'est une pépite, parce que c'est un film qui a été quasiment invisible depuis 20 ans. Voilà. Et donc, l'unique réalisation du producteur Christian Fechner mérite une réhabilitation proportionnelle à l'échec commercial dont elle fut victime, d'ailleurs, superproduction, où lyrisme et cruauté, parfois barbares, se donnent régulièrement la main. Et donc, elle entonne les grandes orgues du récit picaresque pour non seulement nous attacher à un héros comme on en voit peu, mais pour brosser dans un même élan le tableau d'une époque marquée par la misère et l'injustice. Et donc, de péripétie en péripétie, eh bien le spectacle caracole au milieu de décors et de costumes somptueux, tout en, je dirais, offrant de purs moments d'inspiration cinématographique. Et donc, pour le coup, ça reste quand même un film à redécouvrir avec, là encore, une partition assez intéressante, très traditionnelle, avec des instruments traditionnels et tout, de l'époque. Donc, je crois que c'est vraiment un film à redécouvrir ou à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, cette production-là. C'est proposé par LCJ Éditions en DVD et aussi en Blu-ray. Espérons qu'il y ait une très très belle restauration de ce film. Apparemment, c'est le cas, donc que ce soit au niveau de l'image et du son. Donc, on attend en fait cette sortie de façon assez impatiente, je dirais, assez fébrile, parce que je me rappelle du film.
Oui, tu l'avais bien aimé, je crois.
Qui m'avait vraiment bien accroché, en tout cas, voilà. Et puis, une petite nouveauté, parce que c'est vrai que l'éditeur se fait un petit peu rare en ce moment, c'est Spectrum. Donc
ah oui, mais alors, à chaque fois, c'est des sorties assez spectaculaires.
Voilà, là, c'est pour un polar, et donc, de Sébastien Drouin, avec... Alan Leach, Nina Bergman et Yann Tual. La musique, et c'est assez surprenant d'ailleurs, est composée par Cyril Morin.
Ah oui.
Et donc, c'est une c'est coproduit par la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis, film de 2023, qui raconte l'histoire de... d'une serveuse qui est, après s'être engagée dans une petite route de montagne pour échapper au mari violent à laquelle il était venu en aide, eh bien un homme se retrouve bloqué dans sa voiture en pleine tempête de neige. Et donc, en fait, c'est un film, c'est une sorte de huis clos qui, en fait, alterne le survival et aussi le polar. Mais bien sûr, là on spoilera pas l'histoire parce que ça serait un petit peu dommage, mais franchement c'est un film qui a bénéficié de moyens assez modestes, mais pour en tout cas une belle réussite au final. Donc moi je vous invite à découvrir ce film. Il s'intitule, parce que je pense que
j'ai un doute
c'est Cold Milt, et donc c'est sorti chez Spectrum Film en Blu-ray et édition 4K, voilà.
Ah oui. Non, toi, je m'attendais à un film asiatique, parce que Spectrum est spécialisé, a priori, mais...
Et oui, mais surprise. Voilà, il fait quelques petites incartades. Hein. On l'a vu, je crois, avec le cinéma portugais, me semble-t-il.
Oui, oui,
il semble. Où il y avait eu une sortie d'un coffret. Et donc, voilà. Donc, il s'aventure, je dirais, dans... des domaines voilà, assez éclectiques, et on ne peut que s'en féliciter. Un petit dernier ? Allez, un petit
pour
dernier.
La route, allez.
Allez, un petit dernier. on en a peut-être déjà parlé, je ne sais pas. C'est un film de 1960. Alors, c'est dans la collection Make My Day. Film policier de Don Sharp avec William Luca, Andrew Folds, Colette Wilde, la musique est signée William Alwyn, film britannique, ça s'intitule Les Professionnels, The Professionals, parce que souvent les collections Make My Day utilisent souvent les titres originaux. Et donc, le pitch de ce film, eh bien, c'est un des plus habiles braqueurs de Banque d'Angleterre, à peine relâché après 4 ans de détention, qui participe à un nouveau casse en compagnie de 5 complices. Et donc, ce film, qui est quand même relativement court, hein, parce qu'il fait à peine, enfin, tout petit peu plus d'une heure, il fait 62 minutes exactement, et donc, on pourrait penser que on est sur un format de série télé. Eh bien, ce film, qui est dégraissé jusqu'à l'os, suivant donc la formule consacrée qui va droit au but pour dépeindre les minutieux préparatifs d'un gros coup, ainsi que son déroulement générateur de suspense et d'action sans temps mort, pour un pur exercice de style qui est joliment millimétré. C'est déjà paru dans une édition combo chez Studio Canal, parce que c'est eux qui sont, enfin c'est l'éditeur qui est l'instigateur en fait de cette collection. Et donc c'est déjà sorti avec bien sûr une préface toujours, je dirais, admirative et engageante de Jean-Baptiste Thoré. Voilà.
Et, oui.
Et donc ça, c'est déjà sorti, déjà dispo, et dans une très très belle copie pour ce film de 1960, je le rappelle.
Eh bien, merci Laurent pour ces conseils, et vous l'avez compris encore une fois, le choix est vaste, vous avez l'embarras du choix, comme on dit, et on va faire une petite pause musicale avant de passer à l'actualité des films à l'affiche sur nos écrans. Alors, que nous as-tu préparé, Laurent ?
Eh bien, on parlait tout à l'heure de la relance, en fait, des nuits du film culte.
Ah oui.
Et là, on va écouter une musique très connue, du maestro Morricone pour ce film de Giuseppe Tornatore, Cinéma Paradiso, dans un enregistrement un petit peu différent, mais toujours bien sûr validé par le maestro Morricone, sur un album d'ailleurs qui réunit il s'intitule 60 ans de musique, et qui réunit donc une partie audio, dont on va écouter quelques extraits ce soir, et un DVD, voilà, parce que bon, souvent, eh bien, le maestro l'accompagnait de concerts, forcément, et, il avait quand même un répertoire qui pouvait permettre, je dirais, des décennies de concert.
Oui, et puis c'est vrai que les dernières années de sa vie, il a fait pas mal de tournées, en fait.
Je crois que, en fait, sa musique méritait, je pense, comment dire, de s'extérioriser, ouais, et de quitter un petit peu le support du film, ouais, pour faire vraiment des œuvres de concert. C'est ce qu'il a fait, et d'ailleurs, à juste titre, on a été parmi le public à quelques occasions, et on ne le regrette pas, en tout cas. Voilà.
Oui.
Donc, on va écouter deux extraits de Cinéma Paradiso. On est parti à peu près pour un peu plus de 4 minutes de musique, et on se retrouve juste après pour la sélection des films de la semaine. film de la semaine, ce soir.
L'Englouti de Louise Aymon, une enfance allemande de Fatih Akin et la femme de ménage de Paul Feig. On va commencer par la femme de ménage, adapté du roman de Freda McFadden qui a été un best-seller en librairie. Et du coup, eh bien le film semble remporter un grand succès parce que moi, quand je l'ai vu, j'ai vu ce week-end d'ailleurs pour ne rien vous cacher, eh bien la salle était quasiment pleine. Alors que vaut ce film, La femme de ménage, avec quand même dans les rôles principaux Amanda Seyfried ou Seyfried et puis Sydney Sweeney. Bon, on va pas trop parler un petit peu de l'histoire parce que sinon on va un petit peu vous divulgâcher les ressorts du scénario. C'est le pitch, le point de départ, si vous voulez, c'est donc une jeune femme qui cherche un job. Voilà, elle est interprétée par Sydney Sweeney et elle répond à une annonce pour être femme de ménage. Et elle est effectivement engagée par un couple richissime qui habite dans une superbe villa. Voilà, c'est magnifique. Sauf que très rapidement, eh bien, la richissime patronne s'avère totalement psychotique. Et donc les choses vont dégénérer assez salement, faut bien le dire, jusqu'à un dernier tiers du film plutôt gore, mais finalement assez fidèle aussi au livre, hein, parce que alors j'ai pas lu le livre, mais j'ai quand même posé des questions à ceux qui l'avaient lu, et il semblerait qu'effectivement ce soit une adaptation particulièrement fidèle au scénario de Freda McFadden. Alors on peut trouver peut-être que certains éléments de l'intrigue sont pas incohérents, mais peut-être invraisemblables. C'est possible, voilà. Mais si on ne fait pas trop la fine bouche, moi je vous avoue, je vous le dis franchement, j'ai passé quand même 2 heures agréablement, voilà. Le film, c'est pas un chef-d'œuvre en termes de mise en scène, hein, faut bien le dire aussi. Le réalisateur Paul Feig, il fait le taf. Voilà, c'est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est filmé en scope. Il y a une belle photo. L'inconvénient, c'est que quand même, on a l'impression de se retrouver devant un téléfilm de luxe. C'est-à-dire que même dans la première partie du film, on a l'impression un peu même de se retrouver dans Desperate Housewives. Il y a un petit côté comme ça. Et puis ça fait un peu thriller. Du samedi après-midi sur M6, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Alors, heureusement, le film est quand même plutôt bien interprété. Moi, j'aime beaucoup les deux actrices principales. Je crois que Laurent aura quelques bémols à apporter. Mais enfin, moi, j'ai trouvé quand même la distribution, le casting assez ingénieux. Moi, j'aime beaucoup les deux comédiennes. Le mari, alors je ne sais plus qui joue le rôle du mari, d'ailleurs j'ai oublié son nom, mais il ressemble un petit peu à l'acteur qui fait Running Man, dont le nom m'échappe tout de suite aussi, décidément.
Brandon Sklenar.
Oui, voilà. Ben écoute, Brandon, il porte bien son nom parce qu'il a vraiment un physique de Brandon. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, même, il se retrouve un peu dans le plus simple appareil. Et là, je me suis dit, mais quand même. Je pense qu'il a des arguments, quoi. En particulier, on peut dire qu'il a des jolies fesses, quand même. Brandon, hein, je veux dire ça. Okay. Voilà, bon, il est magnifique. Bon. Donc cela dit, en plus je trouve que son personnage ne se réduit pas à son physique, parce que j'ai entendu des critiques assassines quand même qui disent oui, bon, enfin il est quand même relativement insipide, non mais je trouve que justement ça correspond, enfin je vous en dis pas plus, mais ça correspond mieux au personnage, voilà. Et quant aux deux actrices principales, voilà, formidable. Alors donc au finish, on est plutôt dans une série B qui donne des allures un peu de série A. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment le téléfilm un petit peu gonflé, voilà, avec une fin gore un peu sadique, moi que j'aime bien perso. Donc en tout cas, ça plaît, hein, parce qu'il y a quand même le film attire des spectateurs. Voilà, donc moi j'ai pas trouvé ça déplaisant. C'est pas non plus le film de l'année, ça c'est clair, mais c'est un agréable petit divertissement, et voilà, on aurait tort de cracher dans la soupe, même si voilà, avec les bémols que j'ai apportés. Je crois que toi, Laurent, peut-être un peu plus sévère.
Alors peut-être un petit peu, mais enfin le film ne m'a pas déplu, loin de là. La seule chose, c'est que le suspense, enfin pour ma part, de ce que j'ai pu en ressentir, hein, c'est que le suspense est assez téléphoné.
Oui, on devine un petit peu.
Assez rapidement, oui, quand oui, même, oui. Les choses. Sans avoir lu le roman. Hein. Voilà. Alors, par contre, il y a quand même. C'est plutôt dans la forme, hein, plus que dans le fond. Sur le jeu des actrices, enfin, sur les actrices, j'ai pas grand chose à dire. La seule chose, c'est que je trouve que c'est assez surjoué.
Surtout d'Amanda Seyfried, ouais, apparemment.
Voilà. C'est un petit peu dommage parce que moi, je trouve que ça nuit un petit peu à l'intrigue.
J'étais pris, hein. J'étais pris.
Je vois ça. Et alors, par contre, en termes de réalisation, je pense que le réalisateur a un petit peu les mains palmées. et donc, du coup, il aurait pu faire véritablement un excellent thriller, ouais, avec une très très belle adaptation. Ce qu'aurait fait peut-être un Fincher ou des choses comme
ça. Verhoeven.
Ou Verhoeven. Là, vraiment, on sent que. Voilà, comme tu le disais, ça pourrait être un téléfilm de vraiment très luxueux, hein, parce qu'il y a quand même de gros moyens. Et ça, je trouve que ça nuit énormément au bon déroulement de l'histoire. Et je pense que ça aurait. Moi, j'étais plus versé sur vraiment le côté suspense. Et on l'a beaucoup moins dans ce film. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que, en termes de réalisation qui est relativement académique et plate, et des actrices qui surjouent énormément leur rôle, alors que si elles avaient un petit peu plus nuancé et pas avoir poussé le curseur à l'extrême, eh bien, je pense que le film aurait été véritablement un excellent thriller. Voilà. C'est sur ce point-là où je trouve que c'est un petit peu dommage. Et c'est sur les deux actrices, parce que l'acteur, lui, par contre, je n'ai pas retrouvé vraiment un surjeu majeur, loin de là. Donc, je crois que c'est une question, voilà, de trouver la bonne mesure. Mais comme véritablement, on a l'impression que la réalisation, eh bien, il y a une absence assez majeure du metteur en scène. Eh bien, forcément, eh bien, c'est un petit peu en roue libre. Voilà. Mais à côté de cela, le film est assez intéressant. Enfin, le retour, voilà. Je suis un peu déçu parce que il aurait pu y avoir véritablement un film très accrocheur. Avec beaucoup de suspense, même si on connaît l'histoire. Voilà, c'est un petit peu dommage.
Matière peut-être à faire autre chose. Voilà,
oui, oui, oui.
Alors maintenant, on va changer totalement de registre avec un film de Fatih Akin, Une enfance allemande. Un film qui se passe au printemps 1945 sur l'île d'Amrun, au large de l'Allemagne. Nous sommes dans les derniers jours du Troisième Reich. Et le film suit le parcours de Nanning, un jeune homme de 12 ans, qui va se voir ses certitudes se lézarder et découvrir une réalité beaucoup plus rugueuse que ce qu'on lui a vendu. Parce qu'en fait, ce jeune homme, Nanning, fait partie des jeunesses hitlériennes. Sa maman, elle-même, est une nazie convaincue. Son père, lui-même, fait partie des dignitaires du régime. Il a écrit des ouvrages sur la race aryenne. Donc voilà, il a baigné là-dedans. Mais voilà, c'est les derniers jours de la guerre. Et sur cette petite île allemande battue par les vents, on va suivre. Alors ça, c'est assez ingénieux, hein. C'est-à-dire que Nanning, son objectif pendant tout le film, c'est de faire plaisir à sa maman, et qui est évidemment en pleine déprime, sans doute parce que voilà, Hitler est sur le point de capituler. D'ailleurs, on nous dit à un moment, évidemment, il s'est suicidé, voilà. Et donc, il va vouloir lui faire plaisir. Mais elle, ce qu'elle réclame, c'est du pain blanc avec du miel, et voilà. Et donc, il va quand on n'en trouve pas, hein, bien sûr, donc il va chercher à fabriquer du pain, à trouver du miel, etc.
Au passage, sa mère est une fervente.
C'est une nazie.
Troisième Reich. Hein.
Totalement. Voilà, oui. Donc, il va. Donc, tout le film est vu à hauteur d'enfant. Et ça, c'est, alors c'est pas nouveau, mais enfin, je trouve que le film le fait très bien. En plus, l'acteur qui joue, alors je sais plus le nom de cet acteur, ce jeune acteur.
Jasper Bierbeck.
Ah oui, alors il est formidable. Je trouve que vraiment, il est très expressif. Il en fait pas trop, justement. Alors lui, justement, il est assez subtil dans son jeu. Et puis, on comprend tout ce qui se passe, hein, rien qu'avec son visage. Et donc, voilà. Et donc, on voit cette communauté vivre là. Alors ça m'a fait penser aux voleurs de bicyclettes, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde les choses à la surface, qu'est-ce qui se passe dans le voleur de bicyclettes? C'est un père de famille qui, pendant tout le film, enfin avec son fils, recherche le vélo qu'on lui a dérobé. Et c'est important, un vélo, surtout à l'époque, au sortir de la guerre, l'Italie doit se reconstruire, il y a beaucoup de gens au chômage, c'est un instrument de travail. Donc il va chercher ce vélo, et à travers finalement ce fil conducteur apparemment tout simple, eh bien on a une... comment dire, l'Italie année zéro, comment elle l'appelait, qui nous est brossée, c'est ça qui nous est montré.
Oui, et là, je dirais d'ailleurs, alors tu parles du voleur de bicyclette, mais là je ferais aussi un parallèle aussi avec le film Stand By Me, où en fait, c'est à travers en fait, une jeunesse, à travers le prisme de la jeunesse, qu'on assiste en fait au déroulement en fait de faits historiques sur en fait la décadence et la fin en fait du nazisme. Et donc c'est ce qui est assez intéressant. Et puis aussi, je dirais le côté tout à fait novateur du film, c'est aussi comment dire l'originalité, parce qu'en fait on n'est pas en Allemagne. On est excentré, on est sur une île.
C'est ça.
Donc en fait, l'interaction en fait de ces habitants sur en fait la situation géopolitique qui évolue assez grandement, et il y a quand même forcément une cinétique avant que, je dirais, les informations arrivent dans cette île qui est quand même totalement, je dirais, un petit peu, enfin, assez isolé quand même.
Ce qui est intéressant aussi avec, bon, il y a le cadre géographique, mais c'est aussi de se dire que c'est une histoire vraie, puisque le scénariste Arc Baum, en fait, a vécu cette histoire, et le dernier plan du film, on peut dire, hein, parce que c'est pas bien grave de le dire, c'est qu'on voit Arc Baum lui-même, le scénariste, sur la plage, en train de regarder la mer, et c'est une façon pour Fatih Akin, d'ailleurs, de rendre hommage à son collaborateur Arc Baum, qui est décédé en novembre dernier. Donc il lui rend hommage avec ce dernier plan, et ce plan qui nous dit aussi que ce qu'on a vu, ça s'est vraiment passé, quoi. En fait, c'est ce vieil homme qui se penche sur son passé, qui nous raconte comment les événements qui nous sont racontés dans le film l'ont amené à changer son regard sur les choses, parce qu'en fait c'est vrai qu'il est quand même comme beaucoup d'ailleurs, on le voit dans le film, très conditionné par la propagande hitlérienne. Et ça, c'est assez impressionnant. Il y a une histoire aussi avec Diane Kruger qu'on va pas révéler. On va pas tout dire, mais il faut découvrir le film. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses comme ça, et c'est montré par petites touches, et j'ai trouvé...
C'est toujours en clair-obscur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une exposition directe, les faits historiques, c'est toujours brossé à travers donc une situation et aussi un fond d'histoire et de fil conducteur. Donc c'est vraiment il y a en tout cas un très bel angle. Moi je dirais plutôt un prisme, parce que c'est vraiment très indirect ce qui nous est amené comme fait historique, et je trouve que c'est extrêmement adroit et perspicace de la part de Fatih Akin.
Et pour terminer, moi je dirais, en ce qui concerne, que j'ai lu certaines critiques qui disent que le film est un petit peu ennuyeux, parce qu'un peu statique. Alors d'abord, le film est pas très long, il dure 1h40, 1h40. Donc déjà, non, on s'ennuie jamais, et j'ai trouvé qu'il y a une sobriété dans la mise en scène qui m'a fait penser même au cinéma de John Ford, parce que chaque cadre est vraiment magnifiquement composé, et aussi un travail sur la lumière. Je trouve que la photographie du film est vraiment formidable.
Oui, alors la photographie, au passage, on la doit à Carl Walter Lindelöf, qui en fait était le directeur photo sur Black Book. Donc pas en fait un novice.
Ouais. Ah oui, non, effectivement, sur Black Book, déjà c'était magnifique. Ouais, ouais. Mais alors là, voilà. Écoute. Ouais, ouais. Donc... Bon, moi je pense que c'est un des meilleurs films de ce début d'année, cette enfance allemande.
Honnêtement, le sujet m'intéressait énormément, et donc là, je n'ai pas été déçu, en tout cas, sur ce... La chose là. Alors par rapport, si je rebondirais par rapport à ce que tu disais sur certaines critiques qui avaient parlé de statisme, c'est aussi, je crois, quelque chose d'assez positif parce que forcément, et ça parle aussi par rapport à l'isolement de cette île, c'est qu'en fait, les gens vivent pas au ralenti, mais disons qu'ils sont extrêmement dépendants du continent. Donc du coup, forcément. Les choses se font beaucoup plus lentement et donc le film retrace de façon, à mon avis, je pense, extrêmement réaliste de l'époque.
Voilà. Donc puis on rassure aussi comme les auditeurs, il y a des mouvements de caméra, hein, il faut pas exagérer.
Ah oui. on n'est pas dans un style contemplatif.
Voilà. Même si de temps en temps, voilà, il y a des plans. Alors on finit cette sélection avec L'Englouti de Louise Aymon. Alors un film que je n'ai pas vu, parce que tu l'as vu Laurent, quel est le pitch un petit peu de ce film?
Alors on est en 1899 dans un village alpestre, la vie s'articule à l'abri du monde. Donc il y a une sorte de voilà de pendant avec la jeunesse allemande. Les regards s'arrêtent aux frontières d'un horizon sans perspective, et dès lors, d'ailleurs, la spiritualité qui permet d'élargir en fait le cadre. Encore que cette jeune institutrice qui est venue de la ville, qui comprend vite que tout le monde vit replié sur lui-même et qu'une intimité avec en fait les quelques voisins habitant donc ces montagnes est totalement impossible. Voilà. Alors le film, alors je le dis tout de suite, hein, fait en termes de durée, flirte avec les 1h40. Et franchement, c'est extrêmement soporifique. alors là, par contre, on est dans un style totalement contemplatif, très peu de dialogue. Voilà, et peu de personnages aussi. Franchement, je pense que Louise Aymon est, à mon avis, passée un petit peu à côté de son sujet. En tout cas, elle a du mal, en tout cas, à faire transparaître tous les sentiments et les émotions que son personnage principal peut ressentir. Honnêtement, j'ai pas du tout accroché au film, hein, ça vous en doutez un petit peu.
Tu as été englouti par l'ennui.
Voilà, c'est d'un ennui quand même abyssal. Et donc, du coup, franchement, je vous invite pas forcément à découvrir ce film-là, même si on a l'impression que le bouche à oreille fonctionne et qu'il a tendance à marcher. Mais franchement, j'ai été extrêmement refroidi par ce film L'Englouti. Voilà, je ne dirai pas plus parce que il n'y a pas grand chose qui puisse sauver ce film là.
Alors notre recommandation pour ce soir, vous l'avez compris, c'est Une enfance allemande, Hildebrand 1945, film de Fatih Akin qui est vraiment magnifique. Et puis bon, éventuellement, si vous débranchez le cerveau, vous pouvez aller voir Cette femme de ménage, bien sûr. Voilà. Et sinon, si vous avez si vous êtes, je sais pas, vous avez du mal à vous endormir, allez voir L'Englouti, vous passerez un moment soporifique. Bon, allez, il y a des films qui sortent mercredi. Est-ce qu'on fait une pause?
Alors, on va faire une petite pause musicale. Allez, on va partir à l'aventure avec ce film multiple fois récompensé. Si je vous dis des acteurs, je pense que vous allez trouver tout de suite le titre. Il y a Meryl Streep, Robert Redford,
Klaus Maria Brandauer.
Oui.
Et c'est un film de Sidney Pollack, Out of Africa.
Voilà, et la musique est signée John Barry. Et on va écouter l'ouverture, sublime partition. On espère d'ailleurs qu'il y ait, parce que je crois que ce n'est pas le cas, en la vidéo, une sortie 4K de ce film. Ça serait quand même vraiment bienvenu quand même. Allez, tout de suite, John Barry, on se retrouve juste après pour parler des sorties cinématographiques à partir de mercredi. Thank you.
bien, après Out of Africa, il est temps de vous parler des films qui vont sortir sur nos écrans à partir de mercredi. Voilà, première semaine du mois de janvier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans nos salles? Évidemment, je vais me tourner vers Laurent. Alors, je sais déjà qu'il y a un western, un véritable western italien qui s'appelle Pile ou Face. Un film de Alessio Rigaud, de Righi et Matteo Zoppis, avec dans les rôles principaux John C. Reilly et Nadia Tereskiewicz. Un film qui nous entraîne à l'aube du XXe siècle. Le Wild West Show de Buffalo Bill arrive en Italie pour vanter le mythe de la conquête de l'Ouest. Et après un rodéo meurtrier et un baiser volé, Rosa et son cow-boy d'amant, Santino, s'enfuient dans la nature italienne, poursuivis par le fameux Buffalo Bill. Voilà donc pour ce Pile ou Face qui sort... mercredi, je crois que ça passera au Lido d'ailleurs.
Il y a 15 films, donc
ah oui.
Voilà.
On ne fera pas le résumé de tous les 15. Hein.
Donc il y a la sortie du film L'Académie des Secrets de Joachim Hollander. Donc je ne pourrais pas vous dire grand chose. Et ça sera la même chose pour ce film d'Eliane de la Tour. Animus Femina. Autre film, ce sont Les Échos du Passé de Masha Chilinski. Alors là, le film s'annonce comme un film assez majeur.
Ouais, prix du jury au Festival de Cannes.
Tout à fait. Film allemand qui est une sorte de fresque sur la mémoire traumatique construite comme un labyrinthe fascinant. Et donc, mérite quand même très certainement d'être vu. Ouais. Autre film, Ella McKay de James L. Brooks.
Une comédie avec Emma McKay dans le rôle principal. Voilà. Alors, une musique de Hans Zimmer, d'ailleurs, à préciser sur ce film.
Ensuite, Father, Mother, Sister, Brother, donc le dernier film de Jim Jarmusch qui donc déboule sur nos écrans. Il y a aussi Les Lumières de New York de Lloyd Lee Choi, qui sort mercredi, qui a été un film qui a été découvert à la quinzaine des cinéastes à Cannes. C'est le premier film de Lloyd Lee Choi qui en fait dialogue avec l'histoire de Suleiman. Ensuite, autre film, Ma Frère de Lisa Akoda et Roman Guéret.
Oui, où l'on retrouve Shirel Nataf et Amel Bent dans les rôles principaux. Voilà l'histoire de deux amis d'enfance qui vont s'occuper d'une colonie de vacances.
Autre film de David Borenstein et Pavel Talankin, c'est Mr. Nobody Against Putin. C'est peut-être un documentaire, non?
Oui, c'est possible. Là, j'ai pas d'infos là tout de suite sur ce film.
Et puis, on a un autre film qui s'intitule Première Lune de Mélanie Melot, mais on ne vous dira pas grand-chose non plus. Et un autre film d'Alexandre Laugier, Thomas Abibès et Oussam Adili, c'est Red Bird. En terminer, eh bien, on a quand même quelques... Alors, un film assez attendu d'Ao Shen, c'est le studio photo de Nankin, qui débarque mercredi, avec le film aussi Tout va bien de Thomas Ellis, et le film de Kate Dolan, Soulmet, et pour en terminer, eh bien, un film d'Andrea Seriana Meneri et de Eddie Laconi, rien n'est oublié. Voilà.
Bien, merci Laurent. Et donc, vous avez vu encore pas mal de choix. Vous pouvez donc aller au cinéma.
Je répète à chaque fois, mais ce sont les sorties nationales.
Hein. Oui, effectivement. Cela ne garantit pas les sorties sur l'image pour tous ces films. Eh bien, il est 22h35 bientôt sur la pendule de RTF. Cinéscopie, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, exceptionnellement, on ne se retrouvera pas lundi prochain, mais dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien, fréquentez les salles obscures et prenez de bonnes résolutions. Allez voir des films en salle. C'est là qu'on apprécie le cinéma.
Tout à fait. Alors, bonne semaine, bonne toile, fréquenter les salles obscures. Elles sont chauffées, hein, je vous rassure.
Oui.
Et donc, du coup, vous pouvez profiter pleinement du 7e art. Allez, dans 15 jours.
Ciao, ciao.
Salut.